Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes. La Congolaise Julienne Lusenge a décroché le prestigieux prix humanitaire Aurora à Venise en Italie le 10 octobre 2021, 7 mois après le prix Femme de Courage du département d'État américain. Connue pour avoir ouvert la voie à des dizaines de jugements pour violences sexuelles dans l'est de la RDC, elle est aussi active à travers son association Sophie Paddy dans le processus de démobilisation des jeunes enrôlés par les groupes armés.
C'est vraiment un grand honneur pour nous et pour toutes les femmes congolaises. J'ai reçu beaucoup de messages des femmes du Congo en général qui m'ont envoyé des messages d'assez civils et même des hommes politiques qui se reconnaissent dans ce combat et se disent vraiment fiers que le prix Aurora puisse revenir à la RDC. Pour nous, c'est un autre message pour nous dire voilà, il faut encore plus d'engagement, continuer à porter sa contribution dans le changement, dans la protection des droits humains. Le prix est pour financer 3 organisations. Une organisation qui s'occupe des femmes déplacées et une autre organisation qui s'occupe des veuves et des orphelins, mais aussi des questions de l'énergie renouvelable. Mais nous allons toucher en fait plusieurs provinces parce qu'il y aura une partie de ce fonds qui va être pour le fonds pour les femmes congolaises, la structure qui donne des prix de subvention aux autres organisations. Donc nous allons donner plus de subventions aux organisations à travers le pays pour que plus de personnes puissent être touchées.
Alors quand vous dites d'autres provinces, pourriez-vous nous rappeler de quelle province il s'agit en particulier?
Le Nord Kivu, l'Ituri, la province du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, et aussi à Kinshasa.
Est-ce que vous pensez donner plus de voix afin que la violence armée commence à disparaître dans la région?
Bon, nous apportons notre contribution en termes de sensibilisation, en termes de formation sur la transformation et la résolution des conflits, en termes de négociations, de médiations. Au-delà de ça, nous mobilisons les communautés pour soutenir les survivants, mais aussi pour les questions de paix. Nous sensibilisons les jeunes à quitter les groupes armés et nous continuons à faire beaucoup de plaidoyer au niveau des autorités pour changer la situation. Aujourd'hui, nous avons un programme national de mobilisation communautaire qui, nous espérons vraiment, qui vont impliquer les groupes de femmes pour que ce programme puisse répondre aux besoins des communautés, pour que ce programme puisse vraiment apporter des réponses concrètes pour la paix. Donc, nous sommes toujours à l'œuvre sur plusieurs fronts avec les groupes de femmes, les membres de la société civile, avec les communautés, les chefs coutumiers, les chefs religieux, parce que nous savons seuls, on ne peut rien. Mais si on est ensemble, on arrive à avoir des résultats. Nous allons aussi continuer à travailler au niveau international avec les différents réseaux pour que la voix de la RDC, la voix des femmes de la RDC puisse être portée à ces niveaux, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à New York, que ce soit à Washington, que ce soit à Ottawa. Partout là-bas, nous apportons la voix des femmes à travers les réseaux, mais aussi nous-mêmes, nous y allons pour parler de ça. Donc, c'est au côté de sécurité, mais au niveau de la justice internationale.
Vous venez juste de le dire, hein, la situation, hein, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo, elle est de plus en plus entendue dans le monde grâce à des gens comme vous, effectivement. Est-ce que cela vous vaut notamment des félicitations du gouvernement congolais?
Oui, et je voudrais vous dire aussi, je suis experte sur le panel qui accompagne le chef de l'État au niveau de l'Union africaine, dans sa mandature. Donc, vous savez que c'est la RDC. À la mandature de la présidence de l'Union africaine cette année. Donc, je suis parmi les experts en charge des genres et j'ai eu l'occasion de les rencontrer et de lui parler des questions des femmes. Et aussi, au niveau du gouvernement, j'ai beaucoup de conseils des femmes qui étaient avec nous de la société civile, qui partagent des informations, qu'on échange sur la situation. Donc, je pense que c'est quand même assez d'alliés à tous les niveaux pour continuer à faire ce travail et à apporter notre soutien.
Dans l'est de la RDC, vous savez qu'il y a l'état d'urgence. On est toujours dans ce bourbier, cette violence incomparable dans la région. Quel est l'obstacle, selon vous, qui fait que les jeunes là-bas ne déposent pas les armes? Est-ce que vous voyez des stratégies pour amener les jeunes à déposer les armes?
Oui, c'est que nous, en tant que groupe de femmes, nous faisons depuis des années et des années. Ce sont des sensibilisations, ce sont des rencontres, des formations dans les communautés, des groupes. Nous avons installé des groupes de dialogue dans les communautés où les communautés se parlent, des conflits et des voies de sortie. Toutes ces stratégies nous aident à faire en sorte qu'il y a des jeunes qui quittent les groupes armés, qui reviennent dans les villages. Et quand ils reviennent dans les villages, on sensibilise la communauté pour les accueillir. Et on les fait passer dans les séances de détraumatisation. Après, on cherche du travail pour ces jeunes. Ils apprennent les métiers. Et je partage toutes ces informations avec les autorités, et même les gens qui ont été nommés récemment pour diriger le programme BDRP, donc de mobilisation communautaire. Je suis allée les rencontrer. Nous essayons de faire de notre mieux que ça change, parce que c'est pas normal avoir des enfants dans cette situation et aussi tout avoir des enfants dans la même situation de guerre. C'est vraiment inacceptable. Nous devons changer la situation et nous continuer à sensibiliser les hommes politiques à ne pas céder à toutes ces manipulations par les multinationales qui veulent bien prendre nos ressources. Et aussi, nous avons vu que le président a vraiment un programme de lutte contre la corruption. Et nous, de notre côté, nous encourageons ce programme. Donc, nous essayons de faire de nos amis pour informer sur la situation. Il y a des femmes qui sont arrivées ici, des jeunes, des femmes, et même des survivants qui sont arrivés. Et nous avons pris un rendez-vous pour que ces gens puissent rencontrer le président directement et lui parler. Les gens venaient de Beni et de Butembo et de Litori. Ce sont des survivants de ce massacre qui s'est passé à Beni. Donc j'ai facilité à ce que ces gens puissent parler directement au président. Et le président a été très impressionné des rapports qui ont été rédigés au niveau de la base. Aussi, je venais de rencontrer le gouverneur du Nord Kivu pour partager avec lui des informations sur les allégations d'abus sexuels et exploitation pendant le bureau de Bola. Donc, à l'occasion aussi, j'ai eu le temps d'échanger un peu avec lui sur l'état de siège. Donc, nous profitons de chaque instant que nous pouvons rencontrer les autorités, ou rencontrer les partenaires, ou rencontrer la communauté, parce que nous devons aussi sensibiliser pour que la communauté se désolidarise de ces groupes armés et de toutes les actions qui se commettent là-bas.
Je voudrais revenir sur ces jeunes qui se retrouvent enrôlés par des groupes violents. Qui sont ces jeunes et surtout que faire pour éviter qu'ils se retrouvent dans cette situation? Car vous l'avez dit vous-même, ce sont vos enfants, ce sont les enfants des femmes de la région.
Il y en a qui s'enrôlent volontairement pour espérer venger ses parents qui ont été tués ou parce qu'ils sont pauvres. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'espoir et ils se réfugient là-bas. Il y a d'autres qui nous ont dit, ils ont pris des crédits dans les coopératives, ils n'ont pas pu payer parce que leur marchandise a été pillée en cours de route, parce que vous savez, il y a beaucoup de coupeurs de route, il y a beaucoup d'attaques dans les villages. Donc quand tout est déjà pillé, la coopérative ne va pas comprendre, il va demander qu'on rembourse l'argent et le jeune se trouve coincé. Et là, il préfère aller se cacher dans les groupes armés parce que là, on ne va pas lui raser sa maison et il ne va pas payer, il sera là dans la brousse. C'est comme ça que les jeunes, comme ça, quand on lance des émissions de sensibilisation avec des numéros de téléphone, les jeunes appellent pour dire voilà pourquoi je suis venu ici. Est-ce que vous pouvez m'aider à ce que je puisse rentrer et que la coopérative puisse revoir ma situation? Et on les rassure et ils rentrent. Et quand ils rentrent, le groupe qui a travaillé avec les jeunes va rencontrer la coopérative pour expliquer la situation et prendre d'autres dispositions maintenant pour voir comment la jeune peut restituer, rembourser petit à petit cet argent qu'il avait emprunté. Donc il y a d'autres qui demandent, bon, justement, un travail. Comme ça, j'étais en mesure de rembourser. Mais il y a d'autres qui ont été enlevés, kidnappés, quand ils étaient encore tout petits. J'ai rencontré une jeune fille qui était prise à 5 ans. Elle est rentrée à 23 ans, avec deux enfants. Donc, elle a subi toutes sortes de violences. Elle a été utilisée dans les hostilités par ce groupe qu'on appelle ADF.
Julienne Lusengue, présidente de l'ONG Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral en République démocratique du Congo. Mozambique, des membres du personnel d'hôpitaux publics dont les services sont gratuits forcent des femmes venues accoucher à verser de l'argent et maltraitent celles qui ne paient pas, selon l'Observatoire des femmes, qui affirme avoir enregistré 16 témoignages d'extorsion et d'abus dans 3 hôpitaux de Maputo et alentour. Les femmes qui n'ont pas pu payer ces pots de vin disent avoir été maltraitées, certaines perdant même leur bébé à cause de cela. Le dossier a été transmis au ministère de la Santé.
Si je le pouvais.
Au Bénin, les grossesses précoces en milieu scolaire ont connu une nette progression, malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement et la société civile ces dernières années. Pour protéger les filles, le gouvernement a l'intention de redoubler d'efforts afin de bannir le harcèlement sexuel et d'empêcher les relations intimes en milieu scolaire. Un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Au total, 9369 cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire de 2016 à 2020 selon des chiffres publiés par le ministère de l'enseignement secondaire. Un chiffre record qui interpelle parents et responsables au niveau du secteur de l'éducation. Selon les données publiées par le même ministère, les auteurs de ces grossesses sont notamment des élèves mais aussi d'autres acteurs extrascolaires. Rachel préparait le baccalauréat lorsqu'elle est tombée enceinte. Une expérience qu'elle ne souhaite à aucune autre fille, selon ses dires.
Je suis tombée en état. Ça n'a pas été facile pour moi. Mes parents n'étaient pas du tout contents de moi. Mais j'ai su garder la grossesse difficilement, car il n'y avait pas de moyens. Mais au fil du temps, j'ai perdu l'année là. Je n'ai pas pu aller en classe. Par la suite, j'ai compris que ne sert à rien de tomber en état sous les bouts.
Selon les experts, plusieurs facteurs sont en cause, dont notamment la mauvaise interprétation des prescriptions religieuses, le regard communautaire sur la femme et la pauvreté. Gilbert Botton est un veuf qui s'est retrouvé seul devant l'éducation de ses enfants, dont 3 filles. 2 d'entre elles ont abandonné les cours parce qu'elles sont tombées enceintes. Il évoque une réalité inquiétante à laquelle les autorités doivent trouver une solution efficace. Définitive.
On veut faire comme on a vu faire, on veut faire ci, on veut ça. Surtout avec l'évolution de la technologie, où nous n'avons pas, de téléphone portable, de télévision, des films, n'est-ce pas, que les enfants se permettent, n'est-ce pas, de regarder, bon gré ou mal gré des parents, et ils veulent copier. Ajouter à cela leur évolution biologique qui les amène naturellement à aller vers le sexe.
Pour Marie-Élise Bédot de l'Association des femmes juristes du Bénin, les filles sont les véritables perdantes dans cette affaire. Elle invite le gouvernement à réellement se pencher sur la question.
J'ai découvert, surtout dans la zone nord de notre pays, que ce sont les parents eux-mêmes qui trouvent que l'école est trop longue et on pousse les filles pour des raisons alimentaires, des raisons économiques. Et on leur demande carrément, ça les gêne pas d'envoyer les enfants avoir des relations sexuelles avec professeurs parce qu'ils pensent qu'il y a plus d'argent là. Ça, c'est une vérité qu'il faut qu'on se dise pour qu'on puisse corriger cela. À Cotonou, beaucoup de parents poussent leurs filles qui sont à l'université, à ce jeu-là, et elles se prostituent pour payer leurs études.
Le gouvernement a d'ailleurs entrepris de doter le Bénin d'une loi pour protéger la femme. Un avant-projet de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme a été présenté aux députés le 23 septembre dernier. L'objectif poursuivi est principalement le renforcement de la protection de la femme contre les atteintes. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Le monde au
féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Le lieutenant-colonel Elmarie Miborg est la seule profileuse de la police sud-africaine. C'est une tâche ardue dans l'un des pays les plus violents au monde, où une personne est tuée toutes les 25 minutes et 115 viols sont signalés chaque jour, selon la police. Blanche Sanou nous en dit plus sur le profil de cette spécialiste de la police criminelle sud-africaine.
Sur une scène de crime, le lieutenant-colonel Elmarie Maibourg dirige un cours de formation en criminologie pour les policiers sud-africains. Les policiers en formation examineront plusieurs scènes pour tenter de faire le lien entre les crimes et construire le profil d'un suspect.
Ce que nous espérons établir avec ce cours chez les enquêteurs, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de plus quand vous avez un crime sur une scène, une victime allongée. Ce n'est pas seulement l'aspect financier qui a été volé. Mais il faut chercher quelque chose de plus et faire un peu plus d'efforts dans l'enquête.
En 25 ans de carrière, Maibourg a enquêté sur 70 meurtres et 90 viols, dont beaucoup par des récidivistes. En Afrique du Sud, la police est confrontée à une réputation d'inefficacité et de corruption. En plus de cela, ce département est sous-financé, subissant des coupes budgétaires fréquentes. Conséquence, l'effectif de la police a considérablement diminué. Malgré ces difficultés, le lieutenant-colonel continue son travail. Dans son bureau se trouvent des tas de dossiers d'interrogatoire, de balistique, de bilan sanguin et d'examens médicaux. Elle étudie minutieusement chaque crime tout en recherchant les indices sur la relation d'un tueur avec la victime.
Parce que sur la scène d'un crime, c'est là que le suspect a laissé des traces. Il montre quelle est sa personnalité. Vous le verrez sur les scènes de crime. Donc tout ce qu'il veut que les gens trouvent, tout ce qu'il fait envers les victimes est montré sur la scène du crime. Et c'est de là que nous déduisons ses traits de personnalité.
Au fil des ans, le lieutenant-colonel a accepté que la frustration fasse partie du travail, en particulier en Afrique du Sud, où la plupart des crimes n'arrivent pas à être résolus faute de preuves. Le système est tellement surchargé que le simple fait d'obtenir des relevés téléphoniques ou des résultats d'ADN peuvent prendre des mois ou des années. Maibou pense que cela encourage de plus en plus la criminalité et selon les chiffres de la police sud-africaine, dans ce pays de près de 60 millions d'habitants, quelqu'un est tué toutes les 25 minutes et 115 viols sont signalés chaque jour.
Les hommes sortiront davantage et commettront des crimes pour montrer leur colère et leur impuissance, alors que les femmes préfèrent se faire du mal à elles-mêmes plutôt qu'aux autres. Nous trouvons donc plus d'hommes que de femmes qui commettent des crimes.
À 50 ans, Maibour a commencé à former pour prendre la relève lorsqu'elle prendra sa retraite dans 9 ans. Mais en attendant, elle continue son travail car elle n'a pas l'intention de s'arrêter si tôt.
Entre parenthèses.
La Cour interaméricaine des droits humains a reconnu la responsabilité de l'État colombien dans le calvaire de Ginette Bedoya, une journaliste torturée par des paramilitaires. L'État a été reconnu coupable pour l'absence d'enquête sur les menaces qu'avait reçues la journaliste. Madame Bedoya avait été enlevée par un groupe de paramilitaires le 25 mai 2000 à Bogota, puis torturée et violée pendant 16 heures avant d'être abandonnée nue au bord d'une route. Elle enquêtait sur un réseau de trafic d'armes et avait mis en cause un général de la police. Le 18 octobre 2021 entre dans l'histoire comme le jour où une lutte qui a commencé par un crime individuel a porté la revendication des droits des femmes journalistes qui laissent une partie de leur vie dans leur travail. A saluer Ginette Bedoya, lauréate du prix de la liberté de la presse de l'UNESCO en 2020. De Depuis janvier 2021, 19 000 enfants ont traversé la jungle du Darién à la frontière entre la Colombie et le Panama dans l'espoir de gagner les États-Unis. Selon l'UNICEF, qui s'alarme de ce chiffre record dans un rapport affirmant que la moitié d'entre eux ont moins de 5 ans. Ils sont en majorité originaires d'Haïti ou de parents haïtiens ayant séjourné au Chili ou au Brésil. Le nombre d'enfants ayant traversé cette forêt dangereuse en 9 mois est 3 fois supérieur à celui des 5 années précédentes réunies. L'UNICEF souligne aussi la hausse du nombre d'enfants qui traversent seuls cette forêt montagneuse infestée de serpents, parsemée de ravins et où sévissent des gangs criminels. L'orpaillage, un métier essentiellement masculin, est exercé par beaucoup de femmes maliennes de nos jours. La pauvreté les pousse à prendre de grands risques dans l'espoir d'améliorer les conditions de vie de leur famille. Mariam Kouyaté est allée à la rencontre de certaines d'entre elles pour découvrir leurs activités et leurs difficultés dans les mines.
Dans l'espoir d'obtenir quelques billets de banque pour la suivi quotidienne, Ami Doumbia, âgée d'une trentaine d'années, et d'autres femmes travaillent dans le site d'orpaillage de Balandougou, cercle de Kangamba, à 95 km de la capitale malienne. Cela fait bientôt 7 ans qu'elles exercent ce métier, tirant du fond des puits des seaux remplis de gravier et de terre.
Après que les hommes ont creusé les minéraux, mon travail c'est de tirer des seaux de gravier et de terre. Ensuite, je les malaxe. Je les lave et les tamise afin de récupérer l'or.
Entre espoir et sacrifice, ces mères de famille, veuves, célibataires ou divorcées, ont quitté leur localité respective, laissant derrière elles leur famille pour ces sites d'orpaillage. Awasako est mère de 6 enfants. Elle dit n'avoir pas d'autre choix.
Nous n'avons pas de moyens. Ici, les enfants sont à la charge de leur maman. Les frais de scolarité, la ration alimentaire, les frais médicaux sont tous à notre charge. Nous ne partons pas dans ces endroits par plaisir, mais plutôt par nécessité.
Elles sont plus de 200 femmes sur ce site d'orpaillage de Balandougou dans le cercle de Kangaba. Elles occupent une place prépondérante dans l'extraction de l'or. Cependant, leurs revenus sont minimes dans ce métier, Awasako explique.
C'est nous qui tirons les seaux remplis de gravier et de terre du fond des puits. C'est également nous qui maximisons cette matière première, mais avec tout cela, nous gagnons seulement que des miettes.
Sur ce site d'orpaillage, ces femmes font tout pour gagner de l'argent. Elles sont exposées à tout genre de dangers, y compris les maladies, la consommation des stupéfiants, l'adultère et le concubinage. De nouveau, Awasako.
C'est très dangereux pour une femme de travailler dans les mines. Elles sont beaucoup ici. Des femmes mariées qui vivent en concubinage, laissant derrière elles leur mari et leurs enfants juste pour de l'argent.
À Kangaba, la grande ville voisine, les femmes s'adonnent traditionnellement au maraîchage. À cause du manque d'eau, elles sont plusieurs à s'être tournées vers l'activité minière, bien que celle-ci soit pénible. Beaucoup sont prêtes à quitter les mines si seulement les conditions leur permettaient de reprendre leurs activités de maraîchage. Maria Makouyate Bamako pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.